Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe.
Bonjour Glenn et merci d'avoir accepté d'être mon invité pour ce podcast.
Merci à toi de m'inviter, c'est sympa.
Première question, comment tu vas aujourd'hui, en ce moment ?
Bah, ça va très bien, c'est la saison, hein, on est dans le roche comme on dit, une forte activité, les clients sont heureux d'être là, je crois, il y a une vraie prise de conscience du plaisir en fait. Je crois que les gens se sont recentrés sur le principal en fait, hein, c'est prendre du bon temps quand on peut quoi. Donc je suis ravi, les retours sont très bons. Donc voilà, faut continuer à travailler, à faire de notre mieux et puis voilà, de faire plaisir aux gens.
Toi, ça t'avait manqué ce rush parce que c'est quand même un drôle de timing pour toi. T'as décroché ta troisième étoile en début d'année et tu t'es pris le confinement 2 mois après, quoi.
Alors moi, quand le confinement est tombé, j'ai pas fait une analyse personnelle en fait. J'ai fait une analyse, je dirais globale. C'est-à-dire que voilà, on est dans un système aujourd'hui qui fonctionne pas clairement. Et donc voilà, je me pose beaucoup de questions sur le monde en général. Moi, je me suis pas dit, oui, on a la troisième, pas de chance, on ferme. Ce serait nombriliste un peu de voilà à ce moment-là j'ai pas une réflexion comme ça du tout quoi je suis pas frustré de pas ouvrir je suis inquiet sur demain en fait je suis pas inquiet personnellement je suis inquiet demain pour mes enfants pour les enfants en général pour le bien-être de la planète ça va pas ça fonctionne pas du tout je pense qu'on court à notre perte clairement hein, si on prend pas des virages à 180 avec des décisions qui peuvent paraître des fois un peu drastiques ou difficiles mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décisions qui seront pas rudes et difficiles, mais en tout cas, elles sont nécessaires.
Bien sûr. Et ça, c'est dans ton caractère de toujours aller de l'avant et ne pas t'apitoyer, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut faire, hein ? Je veux dire, je vais pas pleurer tous les jours, mais il y a un vrai constat et il est alarmant quand même. Donc voilà, après moi, on continue à vivre, j'apprécie chaque moment de la vie. Dès que je passe du bon temps, j'ai conscience de prendre du bon temps. J'ai le sentiment quand même d'être un privilégié. Donc voilà, à partir de là, je vis bien, quoi. C'est-à-dire que chaque bon moment est pris à sa juste valeur, quoi.
Bien sûr. Alors, si je reviens sur toi, Glenn, parce que le but, c'est qu'on parle de toi en tant qu'homme, en tant que personne et pas forcément en tant que cuisinier.
D'accord.
Est-ce que tu es un lève-tôt, un jour où tu as le temps et un jour où tu n'as pas de...
Ouais, je suis pas un lève-tard, ça c'est sûr. Parce que dès que je me lève tard, j'ai mal à la tête, par exemple.
Pourquoi ?
Bah, parce que, je sais pas, ça casse mon rythme. J'ai pas besoin de dormir beaucoup, en fait. Si je dors trop, je suis pas bien. Je suis mou, ça casse mon rythme. Donc non, je me lève tôt, d'autant plus que j'ai des enfants. Donc voilà, faut suivre le petit dernier, il a 20 mois. Donc lui, le matin, il traîne pas au lit. Hein. Donc voilà, la grande, ça va, elle se gère, mais le petit, lui, il a besoin qu'on soit là. Donc je me lève un petit peu plus tard qu'eux, quand même, en général, mais pas beaucoup plus. Mais je suis un couche-tard aussi. Je me couche pas avant 2 heures tous les jours et je dois me lever, pendant l'année scolaire, je me lève à 7h30, quoi. Donc, on va dire qu'on dort 5h30 par nuit, quoi.
Ouais, ça fait pas beaucoup.
Ça fait pas beaucoup, mais ça me suffit, en fait.
Bah, tant mieux.
Ouais. Ça me fait des journées plus longues.
C'est clair. Glenn, qu'est-ce qu'on ignore de toi?
Je sais pas, je suis ennuyeux, peut-être, un peu. Voilà.
Pourquoi?
Dans la vie de tous les jours, je suis pas un grand bavard. J'aime assez la solitude. Voilà, j'aime bien être tout seul. Enfin, j'aime quand il y a du monde, mais j'aime bien aussi être tout seul. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de discours, j'ai pas beaucoup de dialogue. Je suis pas quelqu'un avec qui on peut avoir une discussion à vitam aeternam, quoi.
Ça m'étonnerait.
Ça va assez vite, c'est assez tranché comme discussion. Il n'y a pas grand secret sur ma vie. J'ai une vie plutôt classique, vie de famille, le travail, la maison, les enfants, l'école, les courses. Voilà, une vie un peu comme tout le monde, hein, rien d'extraordinaire. Hein.
J'ai quand même du mal à croire qu'on puisse pas avoir des grandes conversations avec toi, parce que j'ai quand même un souvenir à Baume Manière de grandes discussions passionnantes.
Hein. Ouais, c'est possible. Oui, ouais, c'est possible. Après, je sais pas. Hein, ça, c'est la vision que j'ai de moi-même. Ouais. Voilà, j'essaie de pas penser qu'on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. J'essaie de me remettre en question chaque jour. Voilà, avec mes équipes, pour qu'on soit plus performant, qu'on trouve des choses innovantes dans une espèce de tradition, parce que la maison est comme ça. Donc voilà, c'est une maison aussi qui vous guide une trajectoire. Voilà, moi j'essaie de la conserver. Moi, je pars pas dans tous les sens. Faut avoir une cuisine mesurée ici, quoi. C'est ça la difficulté et aussi la beauté de l'endroit.
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'agace dans la vie?
On a beaucoup de temps ou pas?
Oui.
Non, voilà. Là, principalement dans la conjoncture actuelle, l'incivisme. Voilà, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'on pense à se protéger, mais là, il y a des masques partout, par terre. Voilà, on pense à se protéger soi-même et pas la planète, mais en fait, ça marchera pas si on fait pas, si ça marche pas, si c'est unilatéral, ça marche pas. Donc ça commence à me gonfler. Je vois qu'en plus, on fait pas grand-chose. C'est-à-dire que ces gens-là, on les sanctionne pas, quoi. Il se passe rien. Moi, je suis pour que les gens-là, je sais pas, quand tu roules à 60 km/h au lieu de 50, tu prends une amende, quoi. Bah, et pourtant t'as pas forcément une idée sur ton compteur, je veux dire, c'est pas forcément intentionnel, quoi. C'est quelque chose, des fois tu fais pas attention, c'est un manque d'intention. Par contre, la personne qui jette un mégot par sa fenêtre ou un papier, c'est complètement volontaire, ça. Donc moi je suis pour qu'on soit là-dessus, qu'on soit juste hyper dur, quoi. Je pense qu'il faudrait, je sais pas, 1 000 euros d'amende, quoi. Voilà, fini, il y a plus de discussion à avoir, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, si on tombe sur des gens éventuellement qui peuvent pas payer cette amende, TIG, pendant tes vacances, tu vas comprendre ce que c'est, tu vas ramasser pendant une semaine, tu vas ramasser les déchets sur les bords des routes. Voilà. Voilà, et à un moment donné, il faut prendre des vraies résolutions parce que c'est plus possible, quoi. C'est 8 millions de cigarettes par minute qui sont jetées dans le monde. Faut savoir quand même, 8 millions de cigarettes jetées par minute dans le monde, c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai voulu calculer à la journée ce que ça faisait. J'ai même pas réussi à lire le chiffre. Je crois que mon téléphone, il a bugué. Il a dit, non, mais attends, on part un peu en sucette, là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Donc, l'incivisme, principalement, je sais pas, moi, je suis quelqu'un d'assez familier, entre guillemets. Mais voilà, je sais dire merci, je sais remercier les gens, je sais dire bonjour. Voilà. Il y a des gens encore qui savent pas faire ça. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, quoi. Et des gens qui manquent de politesse, il y en a beaucoup, malheureusement. Ça, c'est pas en voie de disparition, quoi.
C'est clair.
Donc voilà. Ça m'embête. En ce moment, ça m'embête. Voilà. C'est sale partout. Vous regardez les bords de route, c'est juste la folie, quoi. C'est vraiment, c'est une dinguerie tellement que c'est sale. Quand je conduis, il y a pas une fois où je conduis pas en me disant où je me pose pas la question, quoi. Jamais. C'est-à-dire que ça me prend la tête, même. Tellement qu'on fait rien pour ça, quoi. Voilà, c'est comme ça. Tant pis, on en subira les conséquences aussi, hein. De toute façon, hein. C'est comme ça. Faudra vivre avec si on prend pas de vraies résolutions, quoi. Faut déjà arrêter le plastique, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, je crois que ça sera la deuxième étape de ma vie, certainement, ça. Voilà, je pense que c'est genre un combat. Je sais pas, du côté de Paul Watson, j'aimerais bien, ça, c'est un petit truc, j'aimerais bien faire une année, me faire un break et, je sais pas, aller sur Chichipurn pour aller faire mon petit combat, voilà, à ma façon.
Ouais, voilà. Ça t'irait bien.
Ouais, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Ça donnera encore un sens, encore plus grand, entre guillemets, à ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire aussi. Voilà, il y a plusieurs combats à mener, malheureusement, on n'est pas grand chose, alors, tout seul. Et même par rapport à ce que j'avais lancé un truc qui s'appelait Faites grimper l'addition. Et en fait, c'était l'idée, d'aller, on va le faire cette semaine, c'est d'aller ramasser avec ses équipes en cuisine les déchets autour de son établissement ou même ailleurs. Hein. Ça peut être un spot qu'on aime bien, un endroit qu'on aime bien, on prend les voitures et paf, on va nettoyer le plateau de l'accro, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et j'avais lancé ça, j'avais fait une espèce d'appel à certains chefs et finalement, ça, on suit pas. C'est-à-dire que ouais, on aime bien véhiculer le chef dans son potager, c'est bien, hein. C'est vrai que c'est bien d'avoir un potager, etc. Mais on sent qu'il y a un objet plutôt marketing plutôt que un vrai désir de cultiver ses légumes. Pour certains, je parle pas pour tout le monde, ceux qui se reconnaîtront, j'en sais rien, hein. Je ne veux pas citer nom parce que je sais pas au fond ce que pensent les chefs quand ils font ça. Mais en tout cas, j'avais lancé un truc, donc j'avais nominé certains chefs. Heureusement, j'en ai un qui l'a fait, c'est Christophe Baquet avec Fabien. Et autour de chez eux, quand même, autour du Castellet. Au début, ils sont partis avec des petits sacs, et puis finalement, ils ont fait venir la benne. Ils ont ramassé de mémoire 650 kilos.
Oh, oh là là. Ouais. En combien de temps?
Bon, pendant la coupure, je crois que c'était, donc ils ont peut-être une heure et demie.
Ah, c'est dingue.
Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et donc voilà, j'avais passé un fait de grimper l'addition. Donc l'idée, c'était que je domine un chef ou deux, qu'on additionne ses déchets aux miens, et ainsi de suite, quoi. J'ai même été voir le maire de ma commune. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on bloque la route, là, entre Saint-Étienne-du-Grèce et Mazenan, et que peut-être un dimanche, avec l'aide des autorités, etc., on vienne en famille, pour aussi montrer l'exemple aux jeunes. Voilà, et on ramasse un dimanche, là, 3h, 4h, on fait une déviation, et puis voilà, on met tout en œuvre pour essayer de montrer l'exemple, quoi. Voilà. Mm. Nos enfants ne jettent pas, parce qu'on voit encore des enfants qui jettent, quand même. Mm. Voilà. Parce que les parents jettent. Donc, ça, c'est, voilà. Ça me désole un peu, surtout que, voilà, en fait, on parle beaucoup, on agit peu. Mm. Alors, évidemment, on manque tous de temps, les journées sont courtes, ça passe vite, on est dans le train-train de la vie. Mais voilà. Je pense qu'on pourrait de temps en temps, voilà. Moi, même mon maire m'a pas, voilà, mon maire, par exemple, pour donner un exemple, peut-être qu'il écoute. Mais, ben voilà, il m'a pas rappelé. Je lui dis, on fait un cahier, on ramasse avec la commune, voilà, avec les gens volontaires, hein. Enfin, il n'y a pas d'obligation. On fait trois cahiers, puis on donne ça à la commune d'à côté, et ainsi de suite, et puis on remonte peut-être la France, et puis à la fin de l'année, le cahier arrive en haut, puis on a ramassé, je sais pas, moi, 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, j'en sais rien, ça va vite, hein. Mmh. Ça va vite tellement qu'il y en a. Hein. Mmh. Donc voilà l'incivisme, ouais. Principalement l'incivisme.
Voilà, je pense que... Non mais écoute, t'as raison. Je pense que tu peux pas décemment faire le métier que tu fais et ignorer toute cette partie. Donc,
Ouais, mais d'une manière générale, même si on est plombier, même si on est coiffeur, enfin, il n'y a pas de... Mmh. Ça concerne tout le monde, quoi. Mmh. On voit bien, d'ailleurs, entre le Japon et comment le continent là, de plastique qui a été... voilà, hein. Ça, mmh. Pas beaucoup de gens qui le savent, mais on a un continent de plastique, hein, je crois, entre le Japon, l'Australie. Mmh. On a un continent qui fait quand même 5 fois la France. 5 fois la France de plastique.
Ouais,
c'est juste dingue. Mais ça, c'est ce qui a été ramené par les courants, mais il faut s'imaginer qu'il y a bien plus dans les fonds des mers, quoi. Mmh,
bien sûr.
Donc, je veux dire, on a fait n'importe quoi. La Terre a 3 milliards d'années, je crois. On l'a détruite en 50 ans. En 50 ans. C'est équivaut à un claquement de paupières, quoi. Mmh. Voilà. À l'échelle de la planète, ça correspond à ça. C'est comme si tu fermais les yeux et tu les rouvrais et tout avait changé, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on a fait. Malheureux, parce qu'en même temps, on est les plus intelligents et je crois qu'en même temps, on est les plus cons, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est ambigu et qui est compliqué à comprendre, quoi.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
On a atteint la limite.
Ouais, complètement, mais en croissance aussi. C'est-à-dire qu'on a la croissance, le transport, l'alimentation. Moi, je parle du civisme parce que c'est quelque chose qu'on peut changer rapidement. De ne pas acheter, c'est simple. De faire moins de gaspillage, c'est à peu près simple. On peut faire ça. On est capable. Après, il y a la croissance mondiale. Il faut qu'on arrête parce qu'on ne peut pas être plus de toute façon. Et on s'aperçoit, voilà, le Covid, c'est le début de l'amorce de quelque chose de beaucoup plus lourd. Hein. Il faut avoir conscience de ça. Hein. C'est-à-dire, la nature se régule tout seul. Hein. Les lapins sont mangés par les renards. Quand il n'y a pas de renards ou pas assez de renards, ils ont la myxomatose. Il y a, voilà, il se crée des choses naturellement. La nature est plutôt bien faite. Nous, on a réussi à aller un peu presque à contre-nature et on a réussi à avoir une croissance exponentielle trop trop lourde et trop rapide. Donc ça marchera pas. Le transport, bien sûr, évidemment, on pollue trop. Donc on arrive le transport devrait être non polluant et ça, on est capable, sauf que financièrement, c'est peut-être pas rentable. Et puis forcément l'alimentation, parce que si on est trop, on n'arrivera pas à se nourrir tous. Et déjà, on y arrive. Clairement, il faudrait 2 fois la planète pour se nourrir convenablement, quoi. Je crois qu'il faut 4000 mètres carrés par personne dans le monde pour pouvoir se nourrir convenablement. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Donc on est déjà en apnée, quoi. Donc voilà, moi, je pourrais pas tout faire. Non, mais voilà, faut qu'il y ait grande. Moi, j'attends le Malcolm X de l'écologie, quoi. Voilà, j'attends que les grosses fortunes de ce monde, à un moment donné, se mobilisent aussi pour mettre peut-être bout à bout certaines de leurs finances pour pouvoir créer des bateaux qui vont dépolluer les mers. Je sais pas. Il y a forcément des choses à faire. Hein. On peut peut-être, on ne sait pas encore, l'homme du millénaire, quoi. L'homme qui va changer le monde, il est peut-être là, mais il n'est pas encore né, quoi. On l'attend.
Glenn, est-ce que tu as un trait de caractère dont tu aimerais te débarrasser?
Non, je suis patient maintenant. C'est pas un trait de caractère, mais je suis dyslexique.
Mm-hmm.
Et
un complexe.
C'est pas un complexe.
Non?
Non, c'est un petit handicap, mais après, ça a fait aussi l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, ouais, à un moment donné, bah, si tu rentres pas dans une case, il faut aller dans une autre. Enfin, pour arriver au même endroit, il faut prendre un autre chemin. Mm-hmm. Ce qui a fait que je pense que ça a créé en moi une espèce de vision parallèle. Et voilà, ça m'a obligé à trouver des substituts, à biaiser par moment, à trouver d'autres trajectoires pour arriver au même endroit. Et ce qui fait que ça a habitué peut-être mon esprit à travailler différemment. Donc non, ce handicap, j'en ai fait presque une force, quoi. Mm-hmm. C'est pour ça que peut-être dans ma cuisine, j'ai une réflexion différente quand même, dans des assiettes assez épurées, mais on crée des cuissons sur chaque chose qu'on fait, on crée des cuissons, on crée des idées, voilà. Et ça vient pas naturellement, parce que c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en moi, qui est mécanisé un petit peu. Parce que toute ma vie, j'ai dû, à l'époque, quand j'ai 40 ans, et à l'époque, je sais pas, quand t'étais dyslexique, t'étais pas dyslexique, t'étais con, quoi. Mm. T'étais le mec au fond de la classe, voilà, un peu laissé de côté, tes parents un petit peu honte. Voilà, c'était compliqué, quand t'es gamin, c'est dur à absorber tout ça, quoi.
Ah, bah, bien sûr.
Et puis finalement, un jour, je vais au travail, il y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, et j'entends un proverbe, enfin, une phrase d'Einstein qui dit que la création est plus importante que le savoir. Je le dis souvent parce que ça m'a libéré, en fait. Ça m'a libéré parce que moi, je suis finalement, bon, je suis pas un créateur de génie, hein, on va pas exagérer, hein, mais je suis pas le gars qui va créer le moteur thermique, etc. Mais je veux dire, dans ma profession, ça m'a permis de me libérer un peu dans le sens où, voilà, je regarde pas ce que font les autres, j'essaye de savoir qui je suis et de trouver mon identité. Et voilà. Et donc, je deviens plus un créateur qu'un gars qui sait ou qui a du savoir. Et donc voilà, ça, parce que s'il y a pas de gens qui créent, il y a pas de savoir.
Bien sûr. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que tu as attendu peut-être 35 ou 36 ans pour
Ouais, pour libérer.
C'est incroyable.
Ouais, clairement. On vit dans une société un peu compliquée, hein. C'est pas facile de trouver sa place, hein. Clairement, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément heureux dans ce qu'ils font, dans la vie qu'ils mènent, hein. C'est pas simple. On est dans une cadence, on est dans un rythme, on peut pas trop faire demi-tour, c'est compliqué de refaire marche en arrière. Donc c'est, non, voilà, il faut trouver qui on est, c'est de trouver la bonne trajectoire. C'est très dur. Hein. C'est très dur. Je suis pas sûr que tout le monde soit heureux à 100%. Hein.
Mm. T'es heureux?
Ouais. Ouais, ma vie est cool, hein, ça va. Elle est pas simple, hein, parce qu'on a des vies contraignantes. Je vois très peu mes enfants. D'ailleurs, ma première réflexion il y a pas si longtemps.
C'est vrai?
Elle a 11 ans.
Et elle t'a dit, je te vois pas assez?
Ouais, genre, de toute façon, je te vois pas. D'intérêt, enfin, voilà, enfin. Mm. Voilà, je suis pas un inconnu, mais voilà. Et puis c'est vrai que quand on rentre à la maison, on est plutôt fatigué. Moi, dessiner avec ma fille, et puis ça me galvanise pas quand je rentre, quoi. C'est-à-dire que jouer avec ma fille, bon, c'est maintenant elle est un peu plus grande, donc on peut trouver des choses, des terrains plus propices à ce qu'on prenne du plaisir tous les deux. Mais je devrais trouver du plaisir dans le plaisir de ma fille, en fait. Mais j'ai du mal, quoi. Je suis pas le père parfait, quoi. Voilà, il faut que je travaille là-dessus aussi. Parce que ça passe vite, nos enfants grandissent, voilà, il faut faire des concessions parce que notre métier ne permet pas le mi-temps. Mm. Ça n'existe pas, ça, on peut pas arriver à 11 heures dans une cuisine, on progresse pas comme ça. Et donc voilà, mais il faut que je trouve du temps aussi pour la famille, quoi, parce que je crois que c'est compliqué. Cette année, c'est compliqué en plus, on est dans une période difficile. Donc voilà, moi j'essaie aussi de travailler pour la survie de l'entreprise. Malgré les 3 étoiles, c'est compliqué. On a des finances qui sont pas sur le tour du Brunei, quoi. On est une maison de famille. On est beaucoup. On a essayé de conserver tous les emplois. Donc voilà, il faut travailler dans ce sens-là. Moi, je travaille comme si j'étais patron. Voilà, je fais les concessions qui vont avec. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est la famille qui en pâtit, c'est évident.
Bien sûr.
Pas simple tous les jours, mais en même temps, voilà, heureux. Je suis pas sûr que je serais capable, moi, de rentrer tous les soirs, par exemple.
C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu serais plus heureux avec...
Non, je crois pas. En tout cas, pas encore maintenant. Je pense que, à l'avenir, bon, allez, je me donne encore 5 ans comme ça, à ce rythme-là, et après, j'aimerais configurer mon travail d'une manière différente. Voilà, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Aujourd'hui, je construis, je consolide. Après, j'aimerais créer un labo de conception, voilà, avec des personnes à l'intérieur avec qui je travaille, des chefs dans des restaurants, que j'aiguille, avec qui j'échange, à qui on trouve un style dans chaque reste. Enfin voilà, j'ai mon planning un peu dans ma tête de ce que j'aimerais faire. Moi, j'aimerais créer, quoi. C'est ce qui m'intéresse, c'est créer. En soi, c'est pas le service, c'est pas ça. C'est de créer l'idée, de créer un plat. Ça m'excite, ça me galvanise, ça me fait plaisir quand je trouve une petite idée ingénieuse alors qu'elle était là devant nous depuis toujours et que encore une fois on a voulu aller trop vite. On n'a pas essayé de comprendre ce qui se faisait avant et on est déjà sur l'autre versant de la montagne quoi. On n'a pas exploré, on n'a rien exploré en fait du premier versant et on est tous de l'autre côté quoi. Et en fait voilà, moi j'ai fait marche en arrière clairement. J'ai fait machine arrière pour essayer de comprendre ce qu'on faisait avant et comment on peut le faire mieux avec la technologie d'aujourd'hui et la vision qu'on a aujourd'hui. Voilà.
Bah, c'est vrai. Alors, je fais une parenthèse cuisine parce que le but, c'est pas d'en parler, mais c'est vrai que ce qui est très, très marquant chez toi, c'est justement dans les assiettes, on se rend compte que le plus gros de ton travail, il est sur des choses que nous, on voit pas visuellement ou. C'est ça que j'adore, c'est que tu travailles très, très, très dur. Sur en fait des cuissons, des séchages, des déshydratations.
Ouais, clairement. Ouais,
on le voit pas. C'est pas du boulot minutieux sur le dressage, les petits points, les petites feuilles, des
machins. Non, très peu. Il peut y avoir des assiettes comme ça, mais c'est nécessaire. Alors, mais en général, nous, on a pensé que plus une assiette était belle, plus elle vous laissait penser que c'était bon.
Ouais.
Donc elle vous conditionne. C'est comme quand vous arrivez dans un restaurant 3 étoiles, vous attendez quelque chose forcément. Ouais. Et des fois, en fait, vous allez vous gâcher le plaisir parce que votre attente est plus grande que ce qu'on va vous servir. Alors qu'on a fait quelque chose de bon, hein, de super, mais en même temps, votre cerveau, lui, il a fait un travail, il a été encore plus haut que ce que vous attendiez. Donc c'est compliqué. Nous, ce qu'on a fait dans les assiettes, c'est qu'on tout ce qu'on peut cacher, en vérité, plutôt que de le montrer, on va le cacher. Voilà. C'est ça l'idée. C'est de pas vous conditionner à penser que c'est bon. Quoi. Ce qui fait que vous êtes surpris parce que vous dites, ah mince, il y avait rien, ou trois fois rien, finalement, il y a tout, en fait. Des fois, d'avoir rien, c'est d'avoir l'essentiel.
Bah, exactement. Tu m'as dit que tu détestais qu'on te dise que c'était beau.
C'est pas ça, mais en vérité, quand vous sortez d'un restaurant, des fois, j'écoute les gens et mes clients, et quand sur le parking, je suis là aussi, je vadrouille et je les entends dire, ah, qu'est-ce que c'était beau. Mais j'ai jamais encore entendu un client me dire sur le parking ou en rentrant, qu'est-ce que c'était beau. Parce qu'en fait, l'émotion dans un restaurant, elle passe essentiellement par le goût. Clairement. Voilà. Il n'y a personne. Oh, on s'était régalé. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. On peut dire qu'est-ce que c'était beau, mais ça arrive peu finalement. Et en plus, finalement, le goût est intemporel. Le goût perdure. L'esthétisme s'efface. En fait, c'est même l'être humain est comme ça. En fait, tu grandis, tu te bonifies, puis au bout d'un moment, tu commences à dépérir un peu, mais en vérité, le fond de ce que tu es reste. C'est-à-dire que si t'es une bonne personne à 20 ans, tu l'es encore à 40, tu peux l'être à 60, tu peux l'être à 80. Ton physique, il va se détériorer, mais tu peux rester une belle personne quand même. Et en fait, un plat, c'est ça. Et ça va rester. Ça va rester. Clairement, ça va rester. Voilà. Le goût va rester. On a tous des souvenirs de, je sais pas, de voilà. C'est cliché, la grand-mère. Mais on a tous des souvenirs. Moi clairement, je me rappelle pas comment dresser son pot-au-feu, j'en sais rien, mais c'était trop bon. Voilà. C'est ça qui est resté dans mon ADN. C'est le goût. Le goût.
Justement, c'est intéressant ce que tu disais sur les grand-mères, parce que tu disais, on a toujours l'impression que c'était la meilleure cuisinière du monde, parce qu'en fait, on y allait que peut-être 2-3 fois par an.
Ouais, c'est bien, tu t'en souviens, ouais.
Cuisine à la maison, et puis une fois, de temps en temps, tu vas manger le riolet de ta grand-mère, et forcément. Et
du coup, c'est marquant. Bah ouais, parce que toute l'année, tu manges avec tes parents, tu manges 340 jours chez tes parents. Pour voilà, et donc on rentre dans une espèce de routine, c'est comme la vie de tous les jours, on rentre dans une routine si tu la casses pas, c'est comme une vie de couple. Si tu casses pas ta routine, tu rentres dans une espèce de monotonie, tu t'endors, et puis ça devient ennuyeux. Et donc voilà, à travers l'alimentation de toute l'année avec nos parents, c'est ça. Tu vas manger la même bolognaise, c'est plus le même plaisir parce que tu la connais, même si tu te régales, etc. Puis de temps en temps, pendant les vacances scolaires, si t'as la chance d'avoir rencontré tes grands-parents ou d'aller en vacances là-bas, ta grand-mère, elle te bichonne, t'es le petit enfant, donc voilà, elle te fait des trucs pour te faire plaisir. Puis là, tu redécouvres des saveurs, tu fais, je mange jamais ça, si je te dingue. Et là, du coup, paf, ça rentre dans ton ADN, quoi. C'est là que t'as les gros marqueurs pour ta vie plus tard, quoi. Donc on dit souvent la grand-mère, et j'espère qu'on dira toujours des grand-mères. J'espère qu'on aura toujours cette même phrase. Ça veut dire qu'on continuera à cuisiner un peu. J'espère que les grand-mères de demain, elles se mettront à cuisiner, parce que malheureusement, on cuisine beaucoup aussi.
Et les grands-pères?
Ouais, c'est souvent les grand-mères, je crois, quand même. Il y a quelques grand-pères qui touchent bien, mais je crois, enfin, moi, c'était ma grand-mère. Clairement.
Bien sûr, mais les prochains, ce sera peut-être les.
Peut-être. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui cuisinent.
Ah ouais.
Ouais, c'est vrai.
Génération d'après, c'est vrai que c'est drôle parce que.
C'est vrai.
Moi, je pense que ma mère est d'une génération où cuisiner, tu vois, c'est un peu la rébellion, quoi. Je suis une femme, je vais pas mettre en cuisine. Et donc, il y a toute une génération après où c'est les hommes.
C'est vrai, mais par exemple, pour l'instant, j'ai jamais encore entendu dire mon grand-père. Mm. Mm. On dit toujours la grand-mère. J'ai jamais vu quelqu'un dire mon grand-père. Ah, jamais. Si,
ça arrive.
Ça arrive, moi, j'ai jamais entendu. Tu vois, ouais. Tu demandes, tu soulèves le truc.
Bah,
moi,
toi, tu seras un grand-père qui cuisine, tu vois.
Ouais, je sais pas. Je sais pas comment je serai demain. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, je sais pas.
Ah, bien sûr, on n'en sait rien. Ouais. Est-ce que, Glenn, tu as une passion un peu chelou, un peu inexplicable, mais vraiment, tes potes qui te connaissent bien, ils se disent, ça, c'est pour Glenn, quoi.
Ouais, le triple saut. Non, je déconne. Le curling.
C'est bien sûr. Le
bobsleigh. J'adore la nature, hein. c'est un gros kiff. Après, j'aime beaucoup la pêche.
Ouais, génial.
Voilà, peut-être le côté un peu solitaire aussi, j'aime bien ça. Voilà, t'es tranquille, t'entends le bruit du ruisseau. Qui... J'aime bien je crois que j'aime davantage d'ailleurs la pêche en ruisseau ou en rivière. Quoi.
Ah.
Voilà, je crois pour ce côté peut-être bruit, je sais pas, on bouge, c'est un peu plus sportif. Après, j'adore la moto. J'ai la moto. J'ai pas de passion un peu bizarre. Hein.
Mm-hmm.
Après, j'aime bien créer, voilà, à la maison, j'aime bien faire des petits trucs, de bricoler. Je suis pas bon bricoleur, mais j'aime bien essayer de faire quelque chose avec le peu de savoir-faire que j'ai en bricolage, c'est-à-dire je suis proche du zéro. Hein. Mais voilà, j'aime bien avoir des idées, quoi. Même chez moi, ma maison, je la recrée sans arrêt, quoi. Je circule dans ma maison. Tiens, je vais faire ça, tac, le lendemain, tac, je vais dire, on va faire comme ça. C'est-à-dire que ma maison, moi, quand je circule dedans, elle est différente de ce que vous la voyez, vous. Elle est complètement différente. Ah ouais, je l'ai refaite 15 fois, ma maison. J'adore réfléchir à comment on pourrait faire mieux, à comment ça pourrait être différent. Et ma maison, par exemple, j'essaie de la créer pour que quand les enfants viennent en vacances chez moi, la famille avec leurs enfants, passe des moments magiques, en fait. Je suis en train de la concevoir pour ça, ma maison. Parce que petit, j'allais à Troyes, à Bar-sur-Seine, dans une petite maison qui était sur le bord de Seine, comme ça. Et j'ai passé des moments magnifiques, quoi. Et c'est pareil, c'est au même titre qu'un bon plat de ma grand-mère, ça, c'est resté gravé, quoi. C'est des moments magiques. On a tous ça, enfant. Des moments où on a passé des moments dans des endroits où c'est resté dans là, c'est resté marqué, quoi, au fer rouge un peu, parce que c'était magique, parce qu'il y avait tout pour qu'on nous enfants on s'amuse. Et moi, je veux créer des souvenirs comme ça dans la tête des enfants qui viennent chez moi, quoi. C'est-à-dire le petit baby foot, la table de ping pong, le jeu de fléchettes, pourquoi pas un petit cinéma en extérieur où tu vas te mater un petit un petit dessin animé, un petit Walt Disney comme ça, les gens avec des popcorn. On te rappelle quand il y a 20 ans on allait chez Glenn, on allait, c'était juste magique, on passait des vacances de fou, il y a la piscine, voilà ce que j'essaie de faire. Il faut encore un peu de temps, mais ça va venir.
Ouais, ça donne envie, en tout cas.
Voilà, de faire rêver, en fait, il faut rêver, quoi. Il faut se laisser rêver. En fait, moi, je suis encore un grand rêveur. Voilà. Je pense que voilà, moi, de voir un papillon, ça m'émerveille encore, par exemple. Voilà, je prends le temps, je peux m'arrêter pour le regarder. Voilà, d'aller voir une ruche en plein travail, ça, j'adore. En fait, quand c'est nature et que c'est joli, ça tout m'émerveille, quoi. Voilà, j'ai encore beaucoup de rêves. Je me laisse rêver, quoi. Je suis pas blasé. Je suis juste par moments déçu de l'attitude humaine, mais d'une manière générale, quand je croise des sangliers le soir, je suis content de prendre mon téléphone, de les filmer. J'y vois tous les jours. Enfin, je les vois une fois par semaine, mais j'ai toujours la même admiration et voilà, la même vision. Quand je prends le Val d'Enfer tous les jours, j'ai toujours le même plaisir de voir ces rochers qui racontent une histoire, un passé, où je me dis, ça devait être tellement beau à l'époque. Voilà, enfin, quand je dis l'époque, c'est il y a des millions d'années, mais je dis, ça devait être tellement beau, voilà, tout ça sous l'eau, des poissons partout, il y avait une osmose, tout était équilibré, voilà. Je me dis, waouh, en fait, je pense à ça tout le temps, tout le temps. Tous les jours, je passe pas de l'enfer et je me dis, waouh, ça devait être magique.
Glenn, est-ce que tu t'aimes?
Ouais, ça va. Ouais, ça va, je suis pas, je pense que ça va, je suis pas malheureux, je suis pas trop mal constitué. Je suis grand, je suis un peu, j'ai des défauts, voilà, mais je m'aime bien. Je me trouve plutôt beau garçon. je suis pas fâché avec moi-même, quoi.
Oui.
Non, ça va. Franchement, je crois que j'ai de la chance. Je suis bien, même dans mon rôle de chef au quotidien, je suis plutôt gaillard. Enfin, tu vois, je suis pas non plus, je suis pas un buff, mais je suis plutôt bien constitué. Je fais presque 1m90, je fais 100 kilos. Ça m'a plutôt aidé à me faire entendre dans ma cuisine, ce qui fait que j'ai jamais besoin de forcer, quoi. Ça passe toujours. Après, je suis aussi costaud que je crois que je suis gentil. Donc j'ai fait un gros travail là-dessus, parce que moi je suis fils de militaire, j'ai été élevé à l'ancienne. Vraiment.
Et chez toi, ça crie pas.
En tout cas, ça crie plus. Ça crie plus. Je vais pas dire que j'ai jamais crié. Aujourd'hui, on montre un peu du doigt les chefs un peu durs, mais en même temps, on est aussi On est aussi dans, voilà, c'est comme un sport, notre métier. Voilà, on a les gens qui viennent chez nous, on a une sacrée attente, il y a une pression. Donc voilà, aujourd'hui, quand on voit un Lucas sur le bord d'une piscine en train de crier sur ses nageurs, ça pose pour la personne. Clairement, on se dit, ouais, c'est un super entraîneur, c'est un malade et tout. Et un chef qu'on va filmer peut-être comme ça, à son détriment, comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut être clair dans ce qu'on fait et qu'on n'a pas forcément le temps de toujours bien s'expliquer. Mais c'est un moment précis, ça peut être filmé, ça peut durer une fraction de seconde et tout le reste de la journée, il peut être super sympa. Et sur une fraction de seconde, on va le mettre en avant. Je trouve que c'est pas cool parce que on doit faire des efforts, c'est évident, et ça a clairement changé, je pense. La vie dans les cuisines a clairement changé. On doit encore faire des efforts, mais ça prend le bon sens. Ça prend le bon chemin. Donc, faut nous laisser encore un peu de temps pour que la nouvelle génération peut-être arrive, parce que les anciens, ils ont été élevés comme ça, donc ils ont continué. Moi, j'ai été élevé comme ça dans ma vie d'enfant. J'ai été élevé comme ça quand j'ai commencé la cuisine. Et j'ai fait un vrai travail sur qui je suis, et ça crie plus du tout. Clairement, ça crie plus. Et c'est pour ça que je garde mes équipes aussi. Il n'y a pas de turnover dans mes équipes. Les gars sont contents d'être là. Il y a le sourire. On se chambre un peu. Il y a la musique en cuisine. Voilà. On danse des fois, voilà, on chante. Il y a une bonne, voilà, dans ma cuisine, il y a une bonne ambiance. Voilà, il y a une vraie joie. Et les stagiaires sont là, sont contents d'être chez nous. Ouais. Et on leur donne, on sait que c'est des stagiaires, on les oppresse pas, on leur explique pour qu'ils soient les chefs de demain. On n'est pas là pour les casser, on est là pour les épauler, pour les emmener plus loin. Et tous ces jeunes qu'on forme aujourd'hui, demain, quand ils seront chefs, voilà, ça sera notre plus grande fierté. Voilà, de les voir là réussir, et eux, ils nous regarderont toujours avec ses grands yeux, en disant, voilà, c'était mon chef, il a fait partie des gens qui m'ont formé, j'espère, entre guillemets, hein, j'essaie de dire ce que j'aimerais entendre. En plus d'être un grand chef, c'est un grand homme.
Ouais.
Voilà, j'aimerais bien que les deux soient liés, quoi. Donc voilà, donc je travaille sur ma façon de travailler, de driver, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de driver. Il y a le meneur et il y a le leader. Donc le leader, c'est quelqu'un qui apprend à driver, et le meneur, c'est quelqu'un qui naturellement était déjà prédisposé, entre guillemets, à diriger des équipes. Et après, il y a plusieurs façons de driver ou de mener. Ils ont le cerveau, c'est des cérébrales, entre guillemets. Faut leur expliquer 2 + 2 = 4, -1 = 3. Enfin bref, faut leur expliquer clairement les choses. Après, il y a des gens qui marchent à l'affectif. Il y a des gens, tu leur dis, t'as fait pas comme ça que je t'ai montré. Ça fait 3 mois que je te montre, c'est comme ça. Et là, le gars, il est juste dépité parce que tu l'as déçu. Et puis, il y en a, il faut les secouer un petit peu. Voilà, pas méchamment, voilà, mais faut, de temps en temps, faut leur dire, gars, c'est pas comme ça. On dit la même phrase, mais avec un autre ton. Et l'idéal, c'est de trouver les justes mots et la bonne intonation chez chaque personne. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et puis voilà, de temps en temps, remercier ses équipes, leur dire qu'ils ont fait du bon travail, qu'on est fiers d'eux, qu'on est fiers d'être leur chef. Que voilà, on a une belle harmonie. Moi, c'est ce que j'ai cette année. J'ai des gars fantastiques. J'ai des gars qui, ça bouge pas, ça travaille, ça a le sourire, ça souffle pas, ça percute. Magnifique. Franchement, je suis content de la génération qui arrive là, parce qu'on dit souvent, ouais, que c'est des broutignoles et que ça change. Moi, je crois que ça est en train de changer dans le bon sens, là.
Ouais, je pense aussi.
Il y a des jeunes qui sont ultra motivés, qui croient en eux, et nous, on croit en eux aussi.
Glenn, est-ce que tu es romantique? ça fait longtemps que je vais te la poser.
C'est vrai? À ton avis?
Bah, je pense que à ta façon, oui.
Ouais, alors ouais, on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est très bien, ça nous va bien, ça. Non, je crois pas que je sois romantique, je suis un poétique.
Ah, c'est bien.
C'est-à-dire que j'adore le sens des mots, j'adore la poésie dans l'objet. Voilà, donc comme tu dis, à ma façon, moi j'adore faire rêver les gens à travers des appellations, à travers des idées, à travers un objet, mon pigeon que je sers au bout d'une branche, dans une branche de chêne, dans un petit nid, les 3 petits cochons. J'essaie toujours à travers mes plots de raconter une histoire. Je suis romantique. Après, très peu de fleurs à ma femme, pour être honnête. Voilà, pas de bougies. Mais j'ai toujours été comme ça, en fait. Donc, ça n'a pas changé.
Oui, ça, c'est le romantisme un peu lourd.
17 ans après, si tu veux, je pense que je suis toujours le même. Donc, elle a pas de désillusion. Elle m'a aimé tel que j'étais dès le début, quoi.
Oui, voilà.
J'ai pas triché. Je suis pas très romantique. Je pense pas que je suis très romantique.
Est-ce que tu es religieux?
Je pense, je suis croyant. Ouais. Je crois que Des fois, je me projette comme ça, on est une espèce de la planète, comme ça, au milieu de nulle part, une galaxie, on flotte au milieu de nulle part. Notre présence est très déjà bizarre. Tu sais, c'est bizarre, on est là. C'est très bizarre. Des fois, quand j'arrive là, je suis dans tout seul, je suis tranquille, j'ai une espèce de, je flotte un peu et je me dis, ouais, mais c'est trop bizarre. Et pourquoi il n'y aurait pas quelque chose d'encore plus bizarre derrière? Tu vois, pourquoi il n'y aurait pas quelque chose encore de plus, tu vois, ce que je veux dire, c'est, et pourquoi pas? Moi, ça m'arrive d'aller à l'église, de mettre un cierge. Voilà, c'est, ouais, j'ai une croyance, mesurée quand même, hein. Tu vois, j'ai pas de certitude. Je dis toujours, d'ailleurs, je suis sûr d'une seule chose, c'est que je suis sûr de rien. Donc voilà, je suis croyant. J'ai baptisé ma fille, du catéchisme. Voilà, je me laisse à croire en quelque chose. Après la mort, pourquoi pas? Je sais plus, c'est 14 grammes, c'est ça? Il y a pas un film qui, ça, je crois que quand.
Le poids de l'âme, ouais.
Ouais, c'est le poids de l'âme. Le poids de l'âme, je sais pas. Après, voilà, chacun ses convictions. En tout cas, là, je suis bien là, je compte bien y rester encore un petit peu, mais profiter du moment. Mais la mort me faisait peur quand j'étais enfant, beaucoup, parce qu'en plus je pensais qu'on mourrait. On n'avait plus de respiration, on est dans l'apnée. Donc je pensais qu'on mourrait comme ça. Et en vieillissant, j'ai compris que c'était pas comme ça. Donc j'ai un peu, je pense qu'un peu comme tout le monde, hein, un peu la trouille, hein, du passage de l'après entre guillemets. Mais finalement, ce qui me rassure, c'est que tout le monde y passe et tout le monde a réussi ça avec brio, quoi. Tout le monde a réussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, je me suis renseignée dans l'oreillette, c'est 21 grammes.
Ah, c'est 21 grammes. Bien joué. Moi, je vois que voilà. Ça va vite derrière, il y a de l'équipe. Hein. 21 grammes, ouais, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 21 grammes? Je ne sais pas, il y a quand même des phénomènes qui se produisent un peu comme ça, un peu inexplicables, un peu bizarres. Alors, je ne crois pas, par contre, à comment la réincarnation, je ne crois pas à ça, par contre. Parce que si on ne s'en souvient pas, quel est l'intérêt, quelque part?
Exactement.
Il n'y a pas d'intérêt, peut-être en animal, je sais pas. Alors, si je peux choisir éventuellement un tigre ou un orque, voilà, merci, hein, j'espère que le message est passé. Donc voilà, voilà, oui, j'espère qu'il y a quelque chose après. Après, s'il y a quelque chose après, on va être beaucoup, quoi. J'espère que c'est grand. J'espère que c'est grand.
Est-ce que t'aimes la mode?
Ouais, je suis pas très bon. Il faudrait que je fasse un effort un peu. D'ailleurs, quand j'ai eu ma deuxième étoile au Michelin, tout le monde était à peu près bien habillé. Et là, en 2013, et moi, je suis arrivé basket, jean, tout doux, tout ça. Et depuis, on m'appelle Chewbacca. Voilà, pour la petite info. William Frachot. Pour la troisième, je suis venu un peu comme je suis, c'est-à-dire t-shirt, blazer, voilà. Enfin, comme j'essaie d'être. Ouais, après de temps en temps, je mets des chemises aussi, mais j'essaie d'être. Comme dans ma cuisine, j'ai un proverbe d'Oscar Wilde qui dit n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise.
Mais bien sûr. Oui.
Voilà, j'essaye de. Je vais me passer ça exactement. Tu peux demander à tes équipes si c'est ça, je crois. En tout cas, dans le style. Et voilà, j'essaie de représenter qui je suis vraiment. J'essaie de pas être différent de ce que je suis au quotidien. Donc c'est t-shirt noir, jean, basket, voilà, à la cool, quoi. Voilà. Après, j'aime bien me saper quand même, toi, mettre un trois quarts joli, etc. Je trouve ça chouette, mais au quotidien, je trouve ça chiant. Voilà, ça m'embête. J'aime bien les vitres. D'ailleurs, je suis souvent en sabots. Hein. Je quitte très peu mes sabots. Hein. À la maison, je suis en sabots. Je peux aller faire les courses en sabots. Ah, on prend de bon en plus. Hein. Mes potes, ça me dit, mais enlève tes sabots, tu vas me faire honte. Je dis, mais c'est moi qui les porte, les sabots, c'est pas vous. Je suis bien en sabots. Voilà, je suis bien. C'est mon côté paysan, hein. C'est mon côté breton peut-être. Hein. Je trouve qu'on est trop bien dans les sabots, quoi.
Ouais.
Ça vaut pas une paire de Air Max, je suis désolé. Donc voilà, mon côté terreux, ouais. Mais ça, c'est ce qui manque au sol aussi, tu vois. C'est ce qui me tient au sol, je pense, tu vois. Ce qui m'impose de. Tu sais, quand j'ai eu la troisième étoile, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, j'espère que tu vas pas changer et tout ça. Mais en fait, c'est même mes potes me disaient, on peut continuer à tutoyer. Mais en fait, c'est eux qui changent, en fait. Tu vois, c'est eux qui part comme ça, par petite phrase, te fait changer peut-être indirectement. Tu vois, moi, j'ai pas envie de changer, je veux rester le même. Et si je dois changer, c'est en mieux. Donc voilà, mais en fait, c'est souvent le regard des gens, le discours des gens qui fait que ça change. Mais moi, concrètement, je suis toujours. C'est peu de temps en même temps. Je pense que j'ai pas eu le temps de m'envoler. J'espère que si je m'envole, je resterai à proximité du sol quand même. Mais voilà, en tout cas, je rêve. Voilà, je pense que je suis à proximité du sol tout le temps. J'espère que je serai à ce niveau-là, à la même hauteur, quoi. Plus, pas moins. Juste de quoi rêver. Voilà, un peu comme un enfant, voilà, faut continuer un peu même quand on est grand, il faut se laisser un peu de rêve.
Complètement. Alors, Glenn, il faut quand même qu'on parle un peu de bouffe parce que
finalement.
Ce serait chelou comme conversation avec toi. Ce sera ma dernière question, donc tu peux y aller, lâche-toi. Est-ce que tu peux me décrire ton gros gueuleton idéal?
Waouh. Ça va être simple, hein. Ça va être simple.
Ouais.
Ouais, ça va être simple. C'est franchement, c'est, je crois, c'est déjà c'est alors short pieds nus, mm-hmm. petit t-shirt parce que je suis sensible au soleil. Mm-hmm. Mais si je suis à l'ombre, c'est torse nu. Mm-hmm. Et c'est entre potes, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est sympa. Il y a des canapés, il y a des poufs, il y a une table, il y a peut-être un petit bar où on se sert comme ça. Tout le monde se sert un peu comme il veut. Le petit barbecue, même pas. Ça peut être un petit gratin dauphinois. Ça peut être voilà, c'est quelque chose de très simple, mais en fait. Le vrai gueuleton idéal, c'est aussi avec les amis parce que ça rajoute, ça embellit quoi. Et je préfère manger plus simplement avec des amis que manger très bien tout seul.
Ça, c'est vrai.
Moi, je préfère voilà. C'est ça, le petit lieu sympa, éventuellement à la campagne, toi, 30 degrés max, toi, avec une petite brise légère qui rafraîchit. Allez, deux trois petits ruisseaux qui passent à droite à gauche là. Toi, des arbres avec du relief, des ombres. Tu vois, un ciel un tout petit peu nuageux, très peu, avec des petites éclaircies par moment qui vient un peu comment changer la lumière au quotidien, voilà. Ça peut être aussi sur la côte bretonne, voilà. Peut-être des copains, un plateau de fruits de mer, même les rochers comme ça, un peu de cidre. Mmh. Voilà. On est là, posé sur les galets, peinard, on est là, on refait la vie, on refait le monde, on se rappelle le bon souvenir. Ouais, voilà, des choses simples. Franchement, des choses simples. J'ai pas besoin d'être sur un yacht, même si ça pourrait être sympa. Hein. Je vais passer une petite semaine sur un yacht, mais voilà, comme ça tout de suite, même un petit bateau, un bout de pâté à la pêche, un petit pain, même pas de folie en fait. Hein. Ouais, un petit pâté de la grand-mère, pâté de lapin cochon là, avec la gelée au fond là. Bon. Tu vois, juste dingue sur un petit bout de pain avec un bon pote. On est là, on pêche, on est content. La vie est cool, la vie est cool, la vie est simple. Faut pas grand-chose pour être heureux. Hein. Je crois qu'il ne faut pas grand-chose. C'est juste la consommation qui nous a amené à en vouloir plus. Mm. Et moi, le premier. Hein. Moi, le premier. J'ai une piscine. Tu vois, j'ai une belle voiture. J'ai une belle maison. J'ai des télés dans chaque pièce. Enfin, tu vois.
Ouais, ouais.
On rentre dans un système de consommation. Mais franchement, il y a une expérience que j'aimerais bien faire, c'est vivre sur une île. Aller pas tout seul, mais avec très peu de choses. Tu vois, juste de quoi débrouiller. J'aimerais faire un Koh-Lanta, tu vois. J'adorerais ça. Ou vivre à l'instinct primaire. Tu sais, il y a une émission là sur. Ils sont tout nus, je pourrais pas, parce que je suis pudique. Mais si tu me donnes un petit caleçon, je le fais. Tu vois, je le fais parce que j'aimerais bien me retrouver comme ça en harmonie avec la nature. J'ai eu de la chance que je suis parti en Guyane il y a quelques années. Et j'ai vécu un petit peu ça, quoi. Moi, tu me dis, on va en Guyane ou à New York, je vais en Guyane direct. Et donc je suis parti en Guyane et on est parti un peu en bivouac avec des gens qui avaient fait un peu la Légion là. Et donc on a dormi en pleine forêt, les chiens hurleurs, les crocodiles de partout, tu te lèves le matin, il y a une grosse araignée sur ta tente, les serpents, et voilà, on est parti en kayak, on a pêché un caïman pour manger, enfin voilà, moi là je suis rentré chez moi, j'avais oublié le numéro de ma carte bleue, j'ai pas passé pendant 10 jours, j'ai même pas passé un coup de téléphone et j'avais pas envie, j'allais pas sur Instagram, j'allais pas sur Facebook. J'avais besoin de rien, en fait. Je me suis déconnecté. Tu peux pas savoir. C'était juste magique. Et là, tu dis, ouais, c'est ça. Et le monde était comme ça. Donc, tout le monde était comme ça. Le monde entier était la Guyane. C'était juste dingue. T'espères voir une panthère, t'espères voir, tu vois.
Ouais,
et c'est juste dingue. Des animaux. Tu sais que tu vois que dans National Geography ou.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, tu dis, ouais, ils sont là, ils en face de moi. Et là, j'étais comme un fou, hein, vraiment. Vraiment dingue. J'ai vécu un truc de dingue. En Polynésie, je suis parti à Fakarava. J'ai eu de la chance. J'ai nagé dans une impasse où il y avait des poissons, mais partout, tu voyais presque tous les rochers. Des requins juste dingues qui attendaient la venue des proies, tu sais, dans le récif. J'ai de la chance parce que j'ai 40 ans. Alors, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 23 ans, donc j'ai pris tard. Mais j'ai vécu depuis, je pense, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais j'ai vécu quand même deux, trois expériences comme ça incroyables. Donc, rien que ça, déjà, je pourrais partir aujourd'hui que déjà, je me dis, j'ai eu une vie bien remplie. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance.
Et ça, c'est une belle conclusion.
Bon, ben voilà.
Merci beaucoup, Glenn.
Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Bon courage pour la suite.
Sur toi.
Super. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.